Alors, nous sommes dans un dossier département de la Haute-Savoie, PC Collège, sur Cléos 2025-16-75. Dans ce dossier, on reprend la trame de la proposition d'intervention et cette fois-ci, on leur écrit la chose suivante. Je reviens vers vous dans le dossier en référence. Ensuite de nos derniers échanges et des éléments, et notamment de l'entier dossier de permis, de demande de permis de construire que vous avez transmis à mon cabinet. Point. Par ailleurs, il est notable que vous avez également été récemment destinataire d'un courrier daté du 18 novembre 2025, lequel soulève un certain nombre de difficultés juridiques. Point. Vous trouverez ci-après mon analyse de ces difficultés regroupées par thématique. Point. Et vous faites un grand 1 sur le plan de prévention des risques. Et vous faites un grand A en droit, que je compléterai plus tard. Et vous faites un grand B sur la situation de la des parcelles objet du projet. Et là, vous écrivez. Le projet est implanté sur quatre parcelles qui sont les parcelles AL en majuscule 0085, situées en zone UE en majuscule, AL 0086, situées en zone UE en majuscule, AL 0089, situées en zone UE en majuscule, AL 0090, situé en zone UE en majuscule, AL 91, situé en zone UE en majuscule, ainsi que les parcelles AL 92 et AL 93, situées en zonage UH2 du PLU de la commune de Bonneville. Point. Le plan de prévention des risques naturels est actuellement en cours de révision. Point. La procédure est sur le point d'aboutir. Point. La consultation du public a déjà été organisée et pardon, ça a coupé. L'enquête publique doit avoir lieu au deuxième semestre 2025 et l'approbation du plan de prévention des risques au second semestre 2025. Point. Les documents en projet sont consultables sur le site de la préfecture et sont constitués de quatre cartes qui sont la carte de localisation des phénomènes, la carte des enjeux, la carte des aléas et la carte de zonage réglementaire. Précisément, s'agissant des parcelles objet du projet, il convient de relever que la carte des aléas pour la commune de Bonneville correspond à un classement T majuscule 1 numéro 105 pour les parcelles le plus au sud, T2 numéro 105 pour une partie des bâtiments et une partie du stade, ainsi que qu'une partie des parcelles destinées au logement, et T4 105 pour une partie importante du stade. Point. Le T correspond à un aléa torrentiel et T1 à un aléa moyen, T1 pardon, à un aléa faible, T2 à un aléa moyen et T4 à un aléa très fort. Point. Il convient également de relever que le second document, qui est la carte de zonage réglementaire, inclut les parcelles objet du projet en zonage d'une part
bleu, constructible sous condition, et d'autre part bleu dur, zone de reconstruction sous condition. Point. Précisément, s'agissant de l'identification des zones, je relève que la partie incluse en zonage bleu dur, qui correspond au stade, est affectée d'un zonage ZI96. Le reste des bâtiments est affecté d'un zonage J/97 pour la partie centrale et une partie des logements, et I98 pour la partie du bâtiment existant situé au sud-est. Point.
Le zonage ZI/96 correspond à des prescriptions fortes pour inondation. Le zonage J/97 correspond à des prescriptions pour risque torrentiel, à des prescriptions moyennes pour risque torrentiel. Et le zonage I98 a des prescriptions faibles pour risque torrentiel. Point. Il convient ensuite de se référer au projet de règlement
qui prévoit que le projet de règlement qui comporte en page 7, 8 et suivantes un tableau avec les numéros ou les zones d'aléas. En l'espèce, non, les numéros de zones réglementaires correspondantes, en l'espèce 96, 97, 98, et les zonages correspondants, en l'espèce ZI, J majuscule et I majuscule.
Enfin, le projet de règle E, enfin,
En page 22 et suivante, figure le règlement lui-même.
En l'espèce, peut donc être appliqué au projet. Le règlement de la zone, le règlement Z majuscule I, entre parenthèses, page 29, non, page 31, 32 du règlement, ainsi que
la page 39 et 40 pour le règlement J, 39 et 40 pour le règlement I et J en majuscule. Point.
Alors vous dites, le zonage le plus impactant est évidemment le zonage correspondant au règlement ZI. Point. Cette zone correspond à
au stade et entre parenthèses, d'après les éléments versés au dossier au moyen du complément numéro 2, fermez la parenthèse, au stationnement extérieur ou au parking extérieur ainsi qu'à la voie mode doux.
Point. Ainsi, il n'est pas véritablement prévu de construction. Point. Précisément, le règlement de la zone, le règlement ZI, entre parenthèses, page 31 et 32 du règlement en projet, prévoit que sont interdites toutes les nouvelles occupations et utilisations du sol, y compris les terrassements et autres dépôts de matériaux. Point. À l'exception des occupations mentionnées au 2.1 à 2.14. Au titre du point 2, il est expressément prévu que les occupations admises ne le sont qu'à la condition de ne pouvoir être réalisées dans une zone moins exposée. Point. Précisément, il est indiqué que les éléments permettant de vérifier le respect de ces conditions sont produits par le porteur du projet. Point. Tous les aléas auxquels le projet est exposé devront être pris en compte dans cette étude. Point. Fermez les guillemets, on les a ouverts à les éléments permettant de vérifier. Pardon. au point 2.7, il est expressément prévu qu'est autorisé l'aménagement des terrains à vocation sportive sans hébergement et sans construction dépassant 10 mètres carrés d'emprise au sol. Point. Ainsi, le stade, y compris faisant l'objet d'aménagement ou réhabilitation, me paraît pouvoir être inclus dans cette zone. Au point 2.10, sont autorisées les voies d'accès nécessaires à la desserte d'une construction. La voie mode doux pourrait être incluse dans cette catégorie. Point. En revanche, je m'interroge sur la possibilité d'implanter le parking sur ce zonage. Point. En effet, le 1.1 vise expressément toutes les occupations et y compris les simples terrassements. Point. Peut-être pourrions-nous envisager l'utilisation de la possibilité offerte par le 2.5 relative aux ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics. Point. Voilà. En conclusion sur ce premier point, la partie située dans la zone où les prescriptions sont les plus fortes est une partie pour laquelle aucune construction n'est prévue. En revanche, il pourrait exister une difficulté liée à l'implantation du parking sur ce zonage. Point. En tout état de cause, vous impose de justifier que l'utilisation du sol ne peut pas être réalisée dans une zone moins exposée et cette condition doit figurer dans une étude produite par le porteur de projet. Point. Cet élément au plan strictement formel, il ne peut vous être reproché la production d'une telle étude, puisque le plan de prévention des risques n'est pas encore entré en vigueur. En revanche, les informations qui figurent dans cette étude et qui n'auront pas été transmises au service instructeur pourront fonder un refus sur l'article R111-2. Point. Ensuite, J. La partie centrale du projet correspondante à essentiellement au bâtiment du gymnase, aux abris à vélo, à l'extension du collège, au préau, à l'auditorium, à la gare routière, correspond à un zonage J. Point. Le règlement de la zone J figure en page 40 sur 56. Point. De celui-ci, il ressort d'importantes contraintes. Point. En premier lieu, l'emprise au sol de la construction située dans cette zone doit être inférieure à 50% de la surface du terrain, point, située dans la zone concernée. Point. Il est précisé que les constructions existantes sont comptabilisées. Point. Je ne dispose pas des éléments me permettant de vérifier ce point. Il convient d'évoquer la question avec votre architecte. Au titre du 1.2, il est prévu que aucune pièce destinée à une occupation humaine ne sera réalisée au-dessous d'un mètre au-dessus du terrain naturel.
Du document intitulé PC2F, plan du sous-sol et du rez-de-chaussée bas, il ressort que un amphithéâtre est prévu en sous-sol
dans la zone J. Point.
Enfin, je ne dispose pas d'éléments
de nature à justifier de cette construction à mettre au-dessus du terrain naturel. Point. Le 1.3 prévoit également une prescription relative aux façades. Le 1.4 prescrit des réseaux d'assainissement suffisamment étanches pour résister au tassement et érosion. Point. Aucun élément du dossier ne justifie de ce point. Le 1.5 prévoit également une résistance aux surpressions dont il convient de justifier, ainsi que le 1.6, 1.7. Voilà. Je relève également que le 1.10 prévoit que les ERP dont l'évacuation est complexe sont interdits. Point. Il est exact que la liste n'y fait pas figurer les collèges et que le texte prévoit que cette disposition ne s'applique pas au cas d'extension limitée ou de modification d'un bâtiment existant. Toutefois, cette disposition pourrait évidemment vous être opposée. Point. De la même manière, l'article 1.11 prévoit une étude de danger qui définirait les conditions de mise en sécurité des occupants et usagers. Point. Ainsi, en conclusion sur ce point, je relève une véritable difficulté sur le fond et sur la forme, ici encore, l'absence d'une étude pourtant exigée et qui vous permettrait d'éventuellement tenter de justifier du respect des conditions de fond. Point. J'ajoute que cette zone du règlement indicé J97 concerne également les logements de fonction et que la difficulté me semble exactement la même. Point. Enfin, la partie sud-est du projet correspondant au bâtiment existant est incluse dans la zone I du règlement du PPR. Point. Les prescriptions sont plus faibles, mais néanmoins assez contraignantes. Point. En premier lieu, au titre du 1.1, l'emprise au sol est ici encore limitée à 50% en tenant compte des constructions existantes. Point. Au titre du 1.2, il est prévu une réalisation des pièces destiné à l'occupation humaine au-dessus de 0,5 m au-dessus du terrain naturel. La même exigence est fixée pour les ouvertures, pour les façades exposées et latérales. Les articles 1.4 à 1.7 prévoient un certain nombre de prescriptions techniques dont le dossier ne justifie pas. Point. Dans cette zone également, au titre du 1.10, les ERP dont l'évacuation est complexe sont interdits. Point. Enfin, ici encore, au titre du 1.11, les ERP doivent faire l'objet d'une étude de danger qui définira les conditions de mise en sécurité des occupants. Point. La difficulté est ici encore la même. Point. Alors, voilà.
Ensuite, j'avais fait un grand A. Normalement, on est donc dans un grand 1 qui s'appelle plan de prévention des risques. Tout ce que je viens de dicter, c'est le grand B. Et j'avais fait un grand A que j'avais laissé vide. On va le faire maintenant. Et là, on dit que le projet pour lequel vous avez déposé un permis de construire est Donc là, j'ai mon stade, putain de bordel. Est pour une toute petite partie située à l'extrémité est du projet, située en zone d'aléa faible du PPR inondation de larves. Point. Ce zonage affecte uniquement la gare routière et le bâtiment de l'auditorium. Point. Toutefois, si ce plan de prévention des risques est celui actuellement en vigueur et opposable, il ressort des éléments figurant sur le site de la préfecture, qu'est en cours d'élaboration une révision de ce plan de prévention des risques. Point. Celui-ci est encore en cours d'élaboration et n'est pour l'instant et n'est pas opposable au plan juridique. Point. Il ne sera opposable juridiquement qu'après qu'aient été accomplies les formalités de publicité. Point. La Cour administrative d'appel de Lyon, par un arrêt du 7 janvier 2021, numéro 19 LY01521, a précisé qu'un plan de prévention des risques ne devient opposable au tiers que s'il a été régulièrement publié selon les modalités prévues à l'article R562-9 du Code de l'environnement. Point. Ainsi, l'arrêté préfectoral d'approbation du plan doit faire l'objet d'une mention au recueil des actes administratifs de l'État dans le département, ainsi que dans un journal diffusé dans le département. Point. Ce n'est qu'après l'accomplissement de ces mesures de publicité que peut être opposable un plan de prévention des risques. Point. Ainsi, en l'espèce, le plan de prévention des risques en projet n'est ni approuvé, ni encore moins, et n'a évidemment pas fait l'objet de mesures de publicité. Point. Une procédure de mise en application anticipée d'un plan de prévention des risques. Point. Toutefois, des éléments figurant sur le site de la préfecture, il ressort que cette procédure n'a pas été mise en œuvre. Point. Ainsi, au plan strictement juridique, le plan de prévention des risques actuellement en cours de révision ne peut être invoqué. Point. Toutefois, j'attire votre attention sur les dispositions de l'article R111-2 du Code de l'urbanisme. On le cite en entier. La Cour administrative d'appel de Bordeaux, pour exemple, a pu juger que l'autorité administrative peut s'appuyer sur tous les éléments d'information dont elle dispose à la date à laquelle elle statue, et notamment les documents préparatoires à l'élaboration d'un plan de prévention des risques, quand bien même celui-ci ne serait pas encore adopté et pas encore opposable. Point. Entre parenthèses, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4 février 2016, numéro 14 BX00525. Et alors même que le plan de prévention des risques n'est pas opposable, l'ensemble des études et des éléments relatifs au projet de révision peuvent être utilisés par l'administration pour justifier sa position. Point. Le courrier du service instructeur que vous avez reçu le 18 novembre dernier fait d'ailleurs état de ces éléments. Point. La carte des aléas qui situe le projet en zone T1 T2 et T4 peut parfaitement, en l'état des éléments du dossier, fonder un refus sur l'article R111.2. Point. Il paraît nécessaire de vous préciser immédiatement que, dans la mesure où le dossier ne comporte pas d'éléments relatifs à la prise en compte du risque, ce refus apparaît d'autant plus probable. Point. Il convient donc de s'interroger sur la conformité du projet avec les prescriptions du plan de prévention des risques et des différentes zones. Voilà. Voilà, merci.